Pour la plupart des gens, la religion consiste à obéir à des listes de règles à suivre, des conduites à éviter, des rites à exécuter, et puis ceci et encore cela. Le cœur du christianisme n'est pas un ensemble de comportements, mais une personne. Cependant, le Nouveau Testament contient beaucoup d'exhortations qui sont destinées à aider les croyants à rester en communion avec leur Père céleste. Dans sa première épître, l'apôtre Jean dit « Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ, c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » L'obéissance aux commandements permet aux croyants d'entrer dans l'intimité de Dieu. Mais cet enseignement débouche tout naturellement sur la question suivante. De quel commandement s'agit-il? On sait déjà qu'il n'est pas question du décalogue, des fameux 10 commandements de Moïse ou des autres lois qui furent données à Israël. Alors, de quel commandement Jean parle-t-il? Il nous donne lui-même la réponse. Je continue à lire dans le second chapitre de sa première épître. « Mes bien-aimés, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » Verset 7. Ici encore, avant d'informer, enseigner ou exhorter ses lecteurs, Jean exprime son affection envers eux en les appelant « bien-aimés » ou « chers frères » selon les manuscrits. Mais que ce soit l'un ou l'autre, Jean parle avec son cœur à des croyants qui lui sont chers. Quand l'apôtre a écrit ces lignes, il n'avait pas à l'esprit une nouvelle obligation dont ses lecteurs n'avaient jamais entendu parler. Au contraire, le commandement qu'il mentionne est fort ancien. Dans sa seconde épître, Jean répète ce qu'il écrit ici quand il dit « Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. » Et il ajoute « Aimons-nous les uns les autres. » L'apôtre n'inventait rien, mais ne faisait que rappeler les paroles du Christ à ses disciples quand il leur a dit « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père, et je demeure dans son amour. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Cet ancien commandement dont Jean parle est présent dans toutes les Écritures et Jésus l'enseignait à tous ceux qu'il côtoyait, quelquefois en parole et toujours en action. Dans le livre de la loi de Moïse, il est dit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Au premier siècle, il y avait pas mal de rabbins itinérants qui parcouraient les villes et qui s'entouraient de disciples. On les reconnaissait à leur tenue vestimentaire. Les scribes, qui étaient des spécialistes de la loi, connaissaient très bien les textes de l'Ancien Testament, ce qui fait qu'il leur était facile de coincer les rabbins par leurs propres paroles, un peu comme les politiciens aujourd'hui, qui ne manquent jamais les occasions de se taire ou de raconter n'importe quoi. Ensuite, ils sont obligés de faire des contorsions dans tous les sens pour essayer de se sortir du trou qu'ils se sont creusés. Un jour, un scribe qui croyait que Jésus était un rabbin comme les autres a essayé de le ridiculiser devant la foule en lui demandant quel était le plus grand commandement de la loi. Jésus a évidemment déjoué le piège et lui a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. » Et il y en a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Plus tard, dans l'une de ses épîtres, l'apôtre Paul reprendra les paroles de Jésus et dira « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dans les assemblées auxquelles participaient les destinataires de cette épître, se trouvaient des enseignants de mensonges. Mais, quelles que soient les innovations de ces hérétiques, l'apôtre rappelle à ses lecteurs que leur responsabilité était à l'égard d'un commandement qu'ils avaient entendu dès le commencement, c'est-à-dire dès le début de leur expérience chrétienne, et qu'ils connaissaient bien. Je continue le texte. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Verset 8. Ce verset n'est pas simple à comprendre, bien que Jean ne fasse que rapporter les paroles que Jésus a dites à ses disciples. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jésus a fait cette déclaration après avoir lavé les pieds des apôtres. Ce geste, empreint d'altruisme et d'humilité, correspond bien au portrait que l'apôtre Paul a fait de Jésus dans l'une de ses épîtres, où il écrit « Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. » Selon les Écritures, l'amour n'est pas un sentiment, mais un don de soi suivi d'une action. Étant donné que Moïse avait ordonné d'aimer son prochain, la nouveauté dont parle Jean ne réside pas dans le commandement d'aimer, mais dans la manifestation parfaite de l'amour en la personne de Jésus. En effet, jamais auparavant, l'amour parfait n'avait été aussi clairement manifesté que par le Christ. Il a réalisé cet amour dans sa propre vie de tous les jours et surtout en allant à la croix pour le salut des hommes. L'amour-sacrifice qu'il a personnifié est la nouvelle dimension de l'amour que les croyants doivent imiter. C'est cet aspect qui est nouveau. Le mot pour « nouveau » que Jean utilise signifie la nouveauté dans son essence et sa qualité et pas la nouveauté au sens chronologique comme quelque chose qui vient de sortir. Les ténèbres qui se dissipent et la lumière véritable qui brille déjà annoncent la présence d'un jour nouveau et la venue d'une ère de justice qui a commencé avec l'incarnation « Dieu fait homme ». Le monde à venir, qu'annoncent tous les prophètes, est déjà présent sur terre par l'Église et le Saint-Esprit, même si la lumière coexiste encore avec les ténèbres, puisque Satan est toujours le prince de ce monde. Les puissances des ténèbres seront obligées de se retirer pendant les 1000 ans du règne de Jésus sur la terre, mais elles réapparaîtront vers la fin du royaume. Elles seront alors vaincues une fois pour toutes, à tout jamais. L'incarnation du Fils de Dieu apporta dans le monde une lumière qu'on ne pourra jamais éteindre. En toute logique, l'amour qu'il manifesta sur terre devrait régir toutes les relations que les croyants entretiennent les uns avec les autres. L'amour sera, avec la justice, les caractéristiques essentielles du millénium. Dans le premier chapitre de cette épître, Jean a déjà parlé de la lumière qu'il a définie comme l'une des facettes du caractère fondamental de Dieu. Mais ce qu'il a dit était un peu abstrait. Ici, il est plus concret car il dit que la lumière est la révélation spéciale que Dieu a donnée de lui-même en son Fils, et plus spécialement l'amour-sacrifice qu'il a manifestée. C'est parce que les croyants ont été arrachés au pouvoir des ténèbres par Jésus et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, qui est la véritable lumière, que ce commandement nouveau qui consiste à aimer de manière sacrificielle peut devenir une réalité dans la vie des croyants. Mais pour aimer ainsi, il faut apprendre à connaître Dieu en méditant sa parole écrite, car celle-ci révèle la parole vivante, le Seigneur Jésus, qui est aussi le pain de vie et l'eau vive. Or, le croyant a besoin de se nourrir de lui afin de progresser dans la vie chrétienne et dans son amour pour les frères. Je continue le texte. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Verset 9. On peut prendre cette affirmation dans un sens général où le mot frère signifie voisin, prochain, ou au sens strictement littéral. Au sens général, Jean applique le test de l'amour fraternel à ceux qui disent être croyants mais ne le sont pas. L'absence d'amour pour les frères et sœurs en Jésus-Christ indique qu'ils n'ont jamais reçu la vie de Dieu. Au premier siècle, des enseignants de mensonges prétendaient avec arrogance posséder une connaissance spirituelle supérieure et de ce fait méprisaient les croyants non éclairés qui, pour la plupart, avaient un statut social très bas puisqu'ils étaient esclaves ou serviteurs. N'étant pas des croyants véritables, ces hérétiques, auxquels Jean donne plus loin le nom d'Antichrist, marchaient dans d'épaisses ténèbres. Maintenant, si on prend ce que dit Jean au sens littéral des mots, il faut remarquer le pronom possessif « son frère ». L'apôtre s'adresserait donc à des croyants authentiques qui auraient de la haine envers des frères spirituels pour des raisons qui ne nous sont pas données. Cependant, tout porte à croire qu'ils ont des points de vue différents dans les domaines théologiques ou de la vie chrétienne pratique. Si on prend l'affirmation de Jean au sens littéral, elle n'aurait guère de sens s'il parlait de non-croyants, puisque leur état naturel est d'avoir de la haine et de vivre dans les ténèbres. En effet, l'apôtre Paul écrit « Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne ». À cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. De plus, comme le non-croyant ne fait pas partie de la famille de Dieu, il ne peut pas haïr son frère spirituel puisqu'il n'en a pas. Par contre, il est tout à fait possible pour un croyant d'avoir le cœur dur et d'être indifférent à l'égard d'un frère en Jésus-Christ qui est dans le besoin ou même d'avoir une dent contre lui pour une raison ou pour une autre. C'est choquant, mais une réalité. L'opinion comme quoi un véritable croyant ne pourrait jamais haïr un frère est naïve, contraire à l'expérience et à l'enseignement des Écritures. L'apôtre Paul fait des reproches à des croyants et leur écrit « Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice ? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres, et ce sont vos frères que vous traitez ainsi. » Pour ma part, je dois avouer que durant mon ministère, plusieurs chrétiens m'ont fait des crasses et pour certains d'entre eux, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Je peux penser à trois personnes en particulier contre qui j'avais une dent. Je savais bien à cette époque que c'était mal faire que de leur en vouloir, mais j'ai quand même eu des difficultés à surmonter mes ténèbres. J'ai eu l'occasion d'entrer en relation avec deux de ces trois personnes, ce qui m'a grandement aidé, et maintenant, non seulement je n'ai plus d'animosité envers elles, mais je les apprécie beaucoup. Comme je n'ai jamais plus eu de contact avec la troisième, je n'ai pas pu apprendre à l'aimer, Cependant, je n'éprouve plus de rancune à son égard non plus. Il y a beaucoup de croyants avec qui je n'ai pas d'atome crochu ou que je trouve exaspérant à cause de leur personnalité, mais je n'ai rien contre eux. J'évite seulement de les fréquenter. Par contre, si un jour l'un d'entre eux était dans le besoin et frappait à ma porte, je ferais tout mon possible pour les aider parce que ce sont des frères pour qui le Christ est mort. Je continue le texte. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Verset 10. Le temps du verbe demeurer indique une persistance et une continuité. Tant qu'on aime, on est dans la lumière. Mais, comme je l'ai déjà dit, la haine n'est pas limitée à ceux qui ne sont pas sauvés. Vous connaissez certainement un couple de croyants qui divorcent. Souvent, et quelquefois pendant longtemps, au moins l'un des deux va vraiment haïr l'autre et même essayer de le faire souffrir un maximum. Un croyant peut haïr son frère ou commettre n'importe quel autre péché. David s'est rendu coupable d'orgueil, d'adultère et de meurtre, des fautes graves pour lesquelles il a été sévèrement puni. Cependant, le croyant authentique ne pourra pas continuer à pécher en toute impunité, mais sera tourmenté intérieurement jusqu'à ce qu'il demande pardon à Dieu et s'amende. Si un soi-disant croyant déteste un frère ou une sœur en pensant être dans son droit, c'est qu'il n'a jamais connu le Seigneur ni été transporté dans le royaume de la lumière. Il est encore et toujours les deux pieds dans les ténèbres. En effet, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » L'expression « il n'y a en lui aucune occasion de chute » est littéralement « aucun scandale ». Cette phrase a deux significations possibles. Généralement, le mot traduit par « occasion de chute » veut dire un scandale vis-à-vis d'autrui, ce qui semble être le cas ici. En d'autres mots, il n'y a rien en lui qui fera tomber autrui. Deuxièmement, ce nom peut aussi signifier « se faire tomber soi-même », ce qui est en gros le sens du verset suivant où Jean dit « Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. » Verset 11. Celui qui a la haine au ventre est comme un aveugle qui cherche son chemin à tâtons. Il perd ses repères, non seulement spirituels, mais aussi physiques. Il fait n'importe quoi. Il commet des erreurs stratégiques qui se retourneront contre lui et au final, il se fait du mal à lui-même. Par exemple, quand un couple se déchire à cause des enfants, tout le monde dans la famille en pâtira tôt ou tard, et souvent c'est tôt et tard. La haine est un sentiment destructeur qui conduit à la mort spirituelle, psychologique et quelquefois physique. Les faux frères, qui donnaient beaucoup de fil à retordre à l'apôtre Jean, étaient évidemment dénués de tout amour et de toute sollicitude envers les véritables croyants qu'ils connaissaient, fréquentaient et qu'ils essayaient de convaincre de la justesse de leur point de vue. N'ayant jamais été régénérés, ces hérétiques étaient étrangers à la vie de Dieu et donc incapables d'obéir au commandement que Jésus a donné à ses disciples, d'aimer les frères et d'être prêt à donner sa vie pour eux. Celui, par contre, à qui le Saint-Esprit donne le pouvoir d'aimer les frères comme Jésus l'a ordonné et comme plus tard l'apôtre Jean l'a enseigné, atteste par là l'authenticité de sa foi en Jésus-Christ. Ce croyant obéit véritablement au commandement que le Seigneur a donné dans le sermon sur la montagne quand il a dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Les apôtres Paul et Pierre ont repris ce thème de la lumière quand ils écrivent « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière, Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Les frères et sœurs en Jésus-Christ peuvent vraiment dire comme David, « Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble !»